Nous sommes un peuple qui travaille.
C'est travailler plus pour gagner plus.
Et qui trouve sa dignité dans le travail.
La nécessité de travailler davantage. Travailler et de produire davantage.
On doit travailler plus longtemps.
Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible.
Bonjour et bienvenue dans Entre deux slides, une émission politique sur le travail à regarder quand votre patron Fabien s'est fait la malle en Uber à 17h. Aujourd'hui, pour notre troisième volet, on a le bonheur d'accueillir Sarah Abdelnour. Bonjour Sarah Abdelnour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse et maîtresse de conférences à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez écrit « Les nouveaux prolétaires » en 2012 et « Les nouveaux travailleurs des applis » en 2019. Est-ce que vous voulez compléter cette présentation assez succincte ?
Oh bah, je crois qu'on va, on va revenir à mes sujets de recherche assez rapidement, donc ça me va.
Alors, on voulait commencer un peu l'interview via un mème, et je voulais savoir qu'est-ce que ce mème vous inspire.
Alors, bah, je trouve ça... moi, j'étais assez contente hein, de découvrir l'univers derrière l'énergie de flexibilisation du marché du travail. J'ai l'impression que ça me donnait accès à... un espace de critique du monde du travail qui n'est pas forcément celui que je vois habituellement, que ce soit par mes collègues hein, au sein de la vie plutôt universitaire, académique, ou bien que ce soit auprès de mes enquêtés. Là, j'ai l'impression, alors je ne connais pas exactement le public hein, qui participe, qui commente, qui poste sur le forum, le groupe. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir un espace qui se déploie de critique, de discussion autour du monde du travail et de voir que la figure entrepreneuriale, elle est elle peut quand même être moquée, critiquée. On sait. Je pense que ça se diffuse quand même, l'idée que derrière l'idéal, il y a aussi plein de contraintes, plein de deadlines, de pressions, d'inquiétudes. Et je pense que l'auto-entrepreneur, c'est à la fois des figures qui ont été très valorisées ces dernières années. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça empêche de voir qu'il y a quand même aussi tout plein de critiques dans des espaces très variés. On va venir à celles que portent les chauffeurs Uber, mais qu'en fait, plus largement, il y a de la discussion quoi, autour de ces figures un peu mythifiées qui ont été beaucoup promues politiquement. Et notamment sur... les deadlines, les bonus et toute la pression qui peut y avoir autour de la figure rêvée un peu de l'entrepreneuriat.
Très bien. Et du coup, avant d'entrer un peu dans les détails, concrètement, qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur aujourd'hui ?
Alors, si on le prend dans le sens un peu strict du terme, l'auto-entrepreneur, c'est né avec vraiment un dispositif d'action publique. C'est pas un type de démarche, quoi. C'est vraiment un dispositif qui a été voté à l'été 2008. Donc, on est au début du mandat de Nicolas Sarkozy. On est dans la grande loi programmatique un peu qui annonce ce qui va être entrepris en termes de transformation un petit peu du système économique. Et dans cette grande loi programmatique, très en exergue, hein, parce que ça va être dans les premiers titres, premiers chapitres, on a la création du statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est plus précisément, c'est un régime fiscal et social pour les gens qui créent des petites entreprises, donc des entreprises individuelles. Et il s'agit de, en gros, limiter un peu les démarches administratives et enlever le plancher de cotisation sociale. C'est-à-dire qu'avant, quand on créait une entreprise individuelle, même si on ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires, il fallait payer un minimum pour contribuer aux caisses sociales. Et avec la création d'auto-entrepreneurs, il n'y a plus du tout ça. Donc, en gros, pour sortir du côté plus technique, mais en gros, l'idée, c'est de rendre possible la mise en place de très petites activités économiques qui ne dégagent pas forcément beaucoup d'argent. Et de fait, aujourd'hui, il y a toujours la moitié des auto-entrepreneurs qui déclarent à peu près rien comme chiffre d'affaires. Donc, c'est bien ça aussi que ça a permis. Et donc à la base, voilà, c'est ça, c'est un dispositif qui a assez vite marché, alors qu'en fait avant il y avait déjà des choses qui étaient très proches, qui ressemblaient, hein, qui étaient vraiment très très proches dans la conception. Et là, bon, pour un ensemble de raisons, à la fois de contexte économique et puis une campagne de promotion très forte, une diffusion par les institutions, le pôle emploi, enfin voilà, tout un ensemble de raisons qui font que ça s'est beaucoup plus diffusé. Et qu'en 3 ans, on arrive à 1 million d'auto-entrepreneurs, que maintenant, on est bientôt à 2 millions d'auto-entrepreneurs. Donc, c'est quelque chose qui s'est très largement diffusé. avec des usages hyper variés, hein, évidemment. On n'a pas un profil type. Il y a plein de gens qui s'inscrivent et qui n'en font rien parce qu'ils sont passés un peu par le chômage ou parce qu'ils se disent que peut-être ils monteront une boîte, mais en fait, ça n'adviendra jamais. Donc, il y a plein d'auto-entrepreneurs un peu virtuels. Il y en a qui cumulent avec une autre activité. Il y a des retraités qui font des... voilà, un peu des sortes de piges qui reprennent de leur ancien travail. Il y a des chômeurs, il y a des précaires, c'est quand même l'essentiel de la population, hein. C'est quand même des... on est dans le bas de la hiérarchie du monde du travail, et il y a quand même beaucoup de situations qui sont des situations très fragiles économiquement, avec des chiffres d'affaires qui sont hyper réduits. Donc voilà, plein de profils, et en même temps, le gros chiffre qui a très vite sorti l'INSEE, c'est que 90% des auto-entrepreneurs gagnent moins que le SMIC. Donc voilà, pour les positionner quand même socialement, ça en dit assez long.
On parle beaucoup du nouveau régime de l'auto-entrepreneur comme d'une innovation, voire une révolution, qui est notamment facilitée par les plateformes numériques. Est-ce que c'est si nouveau que ça, des modes de travail qui font penser un peu au travail à la tâche? Est-ce que c'est quelque chose de si inédit? Ou alors ça a tout un historique qui a pu précéder le salariat?
Alors, c'est vrai que ça a beaucoup été présenté comme un Hervé Novelli, hein, qui était le secrétaire d'État, qui l'a beaucoup promu, qui l'a mis en place, l'a beaucoup présenté comme une révolution fiscale, une révolution sociale, une révolution économique, etc. Bon, en fait, déjà, rien que la promotion du travail indépendant, un peu au détriment du salariat, enfin, un peu en comparaison avec le salariat, ça remonte à la fin des années 70. On a, voilà, les politiques ont commencé, on est... voilà, tournant un peu libéral, gestion de la crise économique des années 70, et avec Raymond Barre à la tête un peu de la politique économique en France, et il va y avoir les premières mesures d'incitation à quitter le salariat pour monter son entreprise. Au début, c'est à destination plutôt des cadres au chômage, en disant un peu, voilà, vous êtes cadre, vous avez de la ressource, vous êtes capable de monter des boîtes et d'embaucher. Et puis petit à petit, au fil de la fin du XXe siècle et puis jusqu'à maintenant, c'est devenu de plus en plus un message plutôt pour les chômeurs de dire prenez-vous en main et montez votre boîte. Ça s'adresse plus aux cadres, ça s'est de plus en plus adressé à des cibles plus populaires et moins qualifiées en gros, moins diplômées en tout cas. Donc ça déjà pour dire que c'est pas non plus, c'est pas une innovation de 2008 complètement. Et par ailleurs, on peut aussi penser que c'est un retour à des formes de travail plus anciennes. D'ailleurs, les promoteurs du dispositif, je pense à François Hurel, qui est par exemple celui qui a écrit le rapport préalable à la loi. Lui, quand je le rencontre, il m'explique que il trouve que c'est dommage que les métiers du 19e, comme les gens qui portent les valises, les voyageurs à la gare ou les cireurs de chaussures, il trouve ça dommage que ce soit perdu, ces métiers-là soient perdus. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a commencé à organiser le travail autour du salariat, un salaire minimum, des protections, bon bah, toutes ces petites micro-activités peu rémunératrices, elles ont un peu périclité. Bon, c'était résiduel, c'est des formes de travail informelles assez résiduelles. Et là, avec ces dispositifs d'auto-entrepreneurs, c'est vrai qu'on peut faire revivre en gros ces anciennes activités très réduites, qui sont souvent un peu proches de la domesticité, hein, ces activités de service, au service de gens qui ont de l'argent. Et c'est vrai que ça vient un petit peu rejouer ces formes d'activités réduites, sans sécurité, de payer à la tâche. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on voit sur les plateformes numériques, avec toutes les formes de micro-activités, dont on ne sait pas si elles vont être reconduites. Et notamment, c'est vrai que par exemple pour le micro-travail, donc c'est ces tâches qui vont être un peu coupées en morceaux et puis distribuées un peu à une foule de personnes derrière leurs ordinateurs. On a pu comparer un peu le rôle de la plateforme au rôle du tâcheron, donc qui était l'intermédiaire au 19e siècle. Donc c'était celui qui était en relation avec l'industriel, qui prenait des commandes, enfin l'industriel lui passait commande d'une certaine quantité de tissus, de textiles, de vêtements, et le tâcheron distribuait les tâches à un ensemble de travailleurs qui étaient souvent à domicile, d'ailleurs qui étaient aussi souvent des femmes, hein, qui sont assez peu visibles dans l'histoire industrielle, mais voilà, il y avait aussi des femmes qui travaillaient à domicile, et on était dans cet univers, voilà, d'un travail un peu atomisé, décentralisé, et c'est vrai que les plateformes rejoue un petit peu ces formes de travail, c'est-à-dire il y a un donneur d'ordre, il y a un intermédiaire et il y a des travailleurs en bout de chaîne qui sont très peu protégés, un peu atomisés, dispersés géographiquement. Voilà, le travail à domicile, c'est une longue histoire. Ça a été interdit hein, en France, aux États-Unis, enfin, dans l'ensemble des pays à des dates un peu différentes. Parce que précisément, à la fin du 19e, on commence un peu à organiser le travail. C'est les premières formes de protection sociale, de droit du travail. Et on ne peut pas protéger les travailleurs qui sont atomisés chacun chez eux. Et puis, il y a eu des incendies. Enfin, il y a un ensemble de choses qui font qu'on l'a interdit. Et c'est vrai que les plateformes viennent un peu rejouer, là aussi, ces formes de distribution du travail, de tâcheronnat, qui rappellent un peu les formes du 19e.
Et concrètement, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, quel est le contexte social et politique qui a permis l'émergence en fait, un peu de ça? Parce qu'on a en 77 la création de l'ACRE, et surtout en 2008, pardon, la création de l'auto-entrepreneur. Quel a été concrètement le contexte qui a permis ça, quelque part?
Il y a plusieurs éléments de plus ou moins long cours. Il y a déjà un contexte très strictement politique. On est au début d'un mandat où il y a une droite qui est très majoritaire au Parlement aussi. Donc c'est aussi l'occasion de faire passer des lois assez facilement. Donc il y a un programme économique qui est libéral et le gouvernement dispose de suffisamment de pouvoir à la fois exécutif, législatif pour faire passer des mesures. Le contexte un peu plus large, c'est sûr que c'est des dispositifs qui se déploient sur fond de chômage massif, sur fond de dégradation aussi du salariat. C'est-à-dire que c'est assez facile de taper sur le salariat et de promouvoir d'autres formes de travail parce qu'on a aussi laissé le salariat se dégrader d'une certaine manière. C'est un peu l'analyse assez classique mais néanmoins vraiment stimulante de Chomsky sur les services publics, c'est-à-dire quelle est la meilleure manière de démanteler les services publics, c'est d'abord de les laisser se dégrader, comme ça il n'y a plus grand monde pour les défendre, et ensuite on laisse entendre que le marché sera une meilleure solution, quoi. Là on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a le contexte est aussi celui de la dégradation du salariat, le chômage stagne à un niveau assez massif, les salaires baissent, et du coup les travailleurs, comme les chômeurs, vont être incités à chercher des compléments de revenus, soit compléter ses allocations chômage, qui sont de plus en plus réduites dans la durée, de plus en plus contrôlées, l'accès est de plus en plus contrôlé. Et puis on a la promotion des dispositifs de workfare, c'est-à-dire que même quand on touche les allocations sociales, on est incité à travailler. Donc il y a aussi ce contexte-là et cette ligne historique-là aussi de dispositifs qui incitent les personnes en marge de l'emploi à travailler, même si en fait elles ne sont pas vraiment rémunérées. C'est tout le dispositif aussi de les forcer à faire du bénévolat en contrepartie de leurs allocations sociales. Donc il y a le chômage de masse, la stagnation des salaires, et puis le contexte politique qui a permis aussi à ces dispositifs de passer.
Et du coup, la question naturelle après ça, c'est est-ce qu'on a trouvé une forme de coupe? Est-ce que ça a été un bienfait par rapport au chômage, justement, parce que ça a été fait pour ça? Est-ce qu'après 2 ans, une personne qui crée une auto-entreprise, est-ce qu'elle sort de ce chômage-là? Est-ce qu'elle retrouve vraiment un emploi stable, ou est-ce que justement c'est un échec?
En tout cas, elle sort des chiffres du chômage. Donc ça, c'est sans dire que c'était, je pense pas honnêtement que c'était forcément l'objectif premier, mais c'est quand même quelque chose qui est assez accommodant, en tout cas pour les politiques qui l'ont mise en place, c'est que les auto-entrepreneurs, ils sortent de la première catégorie des chômeurs, puisqu'ils sont plus considérés comme chômeurs exclusifs. Or, l'essentiel des chiffres qui sont médiatisés et qui circulent dans l'espace public du chômage sont ceux de la première catégorie. Donc déjà, ils sortent des chiffres du chômage. Après, est-ce qu'ils sortent vraiment de la situation de chômage? C'est une autre question. L'auto-entrepreneur, c'est comme l'essentiel des dispositifs politiques et sociaux. Ça vient souvent redoubler les inégalités sociales de départ. Donc ce qu'on sait, c'est que les auto-entrepreneurs qui étaient les plus dans les situations fragiles avant de démarrer sont aussi ceux dont la longévité est la plus courte, sont aussi ceux dont les chiffres d'affaires sont les plus faibles. Notamment, en fait, quand on compare, donc vu que l'auto-entrepreneur, ça a été beaucoup promu comme à la fois vous pouvez faire que ça, monter votre affaire, ou bien vous pouvez cumuler. Ce qui est assez intéressant, par exemple, quand on regarde les chiffres, c'est que ceux qui n'ont que ça, ils gagnent sensiblement la même chose que ceux qui ont un autre revenu à côté. pour montrer voilà, un petit peu la difficulté de ceux des auto-entrepreneurs voilà, qu'on va dire exclusifs ou à titre principal, voilà, ceux qui n'ont que ça ou quasiment, ils gagnent autant que ceux pour qui ce n'est qu'un appoint. Et donc voilà, on est sur des chiffres d'affaires qui sont très faibles. On a les trois quarts des auto-entrepreneurs aujourd'hui qui gagnent moins de 700 euros par mois. Donc voilà, à nouveau, quand on n'a que ça, on est quand même la plupart du temps pris dans des situations sociales qui sont très difficiles. Et ça, malgré, voilà, Macron a doublé les plafonds. Donc on peut normalement maintenant avoir des chiffres d'affaires qui sont quand même voilà, le double de ce qui avait été instauré en 2008. Ça ne change pas grand-chose au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la plupart des auto-entrepreneurs, ils sont de toute façon largement en dessous de ces plafonds et dans des proportions qui sont... des revenus qui sont extrêmement faibles, parce qu'en plus, je vous dis 720 euros, mais on est sur du chiffre d'affaires. Donc de là, il faut encore déduire éventuellement les dépenses liées à l'activité, d'investissement, pour les chauffeurs VTC, de location de la voiture ou de remboursement du prêt du crédit pour la voiture, et puis les cotisations sociales qui sont souvent réduites au début de l'activité avec l'ACRE, mais il y en a quand même les impôts, même si là aussi ils peuvent être réduits par les dispositifs, mais enfin il y a quand même aussi toutes ces dépenses là donc on est vraiment sur des revenus nets qui sont extrêmement faibles.
On aimerait bien y voir un peu plus clair sur les différents types d'auto-entrepreneuriat et sur peut-être à quel point ils sont importants en proportion les uns par rapport aux autres.
Oui, alors si on veut essayer un peu de cartographier les différents usages de ce dispositif, en gros, moi, ce que j'avais vu pendant, du coup, en utilisant plutôt les statistiques pendant l'enquête, c'est qu'il y en avait à peu près 55% pour qui c'était l'activité principale et 45% pour qui c'était l'activité complémentaire. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont sans doute amenées à bouger un petit peu à la marge, mais disons qu'on a un peu cette répartition, une moitié de cumul et une moitié d'activité exclusive, ou en tout cas principale. Les secteurs d'activité, ils sont assez variés. Il y a de la construction, et ça renvoie à des univers professionnels assez différents, des métiers différents, des niveaux de salaire assez différents, enfin de rémunération assez différents. Il y a de la construction, il y a du service aux particuliers, du service aux entreprises, et c'est un peu... Enfin, voilà, c'est un peu l'hétérogénéité par ailleurs du travail indépendant. C'est-à-dire, on y retrouve à la fois des consultants et des livreurs à vélo, quoi. Donc, il y a, voilà, c'est un peu dans cet univers-là. Après, quand on passe aux auto-entrepreneurs, on est déjà sur un segment qui est un peu moins rémunérateur et qualifié, enfin même pas mal moins, quoi, que le reste du travail indépendant. Et puis on a des secteurs d'activité dans lesquels ça est en train d'exploser, typiquement les transports. En 2018 par exemple, il y a une hausse de 80% des inscriptions qui sont juste dans le secteur du transport, quoi. La ligne, le nombre de nouvelles micro-entreprises entre 2017 et 2018, le pourcentage dans les transports, il augmente de 80%, quoi. Enfin, le nombre augmente de 80%. Donc voilà, il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est en train de beaucoup se développer. C'est pas qu'une illusion, hein, quand on parle quand même d'ubérisation. Bon, voilà, on va y revenir aux questions spécifiques des plateformes, mais clairement il y a des choses qui se jouent dans certains secteurs, des transformations un peu importantes, quoi, des manières de faire travailler dans certains secteurs. Et puis ce qu'on montre quand même le même pour réagir au même, donc voilà, par rapport au poste de Bruno Le Maire qui se réjouit de la soif d'entrepreneuriat en France. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé comme argument publicitaire, hein, de dire que les Français ou les jeunes auraient envie d'entreprendre, ce qui recouvre certainement des vraies réalités, hein, de projection dans le travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vante toujours une soif d'entreprendre réel, et que quand on regarde les vrais usages du dispositif, voilà, les premiers utilisateurs de l'auto-entrepreneur sont pas les auto-entrepreneurs, sont les entreprises qui utilisent le dispositif pour faire travailler des gens, quoi. Et ça, c'est quand même assez massif quand on mène l'enquête. C'est difficile à voir dans les statistiques parce que c'est dur de prendre des critères qui fonctionnent. Pour le moment, il y a un peu le critère de dire une personne qui aurait qu'un seul employeur, enfin qu'un seul donneur d'ordre, du coup, on pourrait se dire en fait c'est potentiellement du salariat déguisé. Mais c'est pas si simple, pour un tas de raisons. Déjà, les statistiques, elles prennent pour le moment en compte essentiellement que l'activité principale. Donc tout ce qui est activité secondaire, on l'a pas encore dans les statistiques. Donc ça invisibilise toute une partie de ce qui se passe sous statut de micro-entrepreneur. Et par ailleurs, un chauffeur Uber, si on lui demande qui est son donneur d'ordre, est-ce que c'est chaque personne qui prend une course, qui commande une course, est-ce que c'est la plateforme, Par ailleurs, même dans cet univers qui est quand même assez monopolistique des plateformes, il y en a quand même toujours plusieurs et ils travaillent souvent pour plusieurs. Donc le critère d'un seul employeur, il ne marche pas très bien. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir du salariat déguisé derrière et pourtant, il n'y aurait pas qu'un seul employeur. Mais du coup, quand on mène l'enquête qualitative, quand on va rencontrer des gens, comme j'ai pu le faire, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même à peu près la moitié des personnes qui pourraient sans doute faire un procès pour salariat déguisé. Et quand on regarde celles qui font vraiment un chiffre d'affaires qui commence à ressembler à un revenu du travail régulier, là on est même plutôt aux trois quarts en fait, qui travaillent pour un seul donneur d'ordre, qui leur fournit le matériel de travail, parfois l'auto-entrepreneur travaille dans les locaux, qui donne les ordres, qui sanctionne, qui rémunère, qui fixe les tarifs, enfin tous les attributs de l'employeur.
Ok, très bien. Du coup, on peut dire concrètement que la phrase « je vais être mon propre patron, je vais être indépendant », elle est complètement fausse quand on fait ce genre d'activité quelque part.
Oui, alors c'est sûr, la réalité des pratiques de travail, elle est très loin du vrai travail indépendant. Pour toutes ces raisons de contrôle de l'activité, de détermination du processus de production, c'est-à-dire qui détermine comment l'auto-entrepreneur travaille. Voilà, moi j'ai rencontré un podologue qui avait fini ses études, qui s'inscrit en auto-entrepreneur, mais en fait c'est son ancien prof qui a lui un cabinet, qui lui demande de s'inscrire en auto-entrepreneur, qui lui fait fabriquer des semelles, qui lui paye à la pièce, chaque pièce, voilà. Ce jeune podologue travaille dans les locaux, et donc effectivement, il n'est absolument pas son propre patron. Mais c'est vrai que les exemples sont vraiment nombreux en la matière. C'est massif pour les travailleurs des plateformes. Ils ne sont pas leur propre patron. Après, ce qui est quand même fascinant, c'est que malgré tout, quand on rencontre les auto-entrepreneurs, il y en a quand même beaucoup qui disent « je m'organise comme je veux » ou « je suis quand même un peu mon propre patron ». Et c'est un peu toute cette illusion qui a des dimensions bien fondées. Je ne veux pas dire qu'ils ne voient pas les choses qui sont à voir, même si en partie on peut penser quand même qu'il y a plein de mécanismes pour leur faire oublier qu'ils ne sont pas salariés. Mais c'est vrai qu'il y a cette marge, il y a quand même parfois des marges de manœuvre un peu supplémentaires acquises. Et la principale, c'est la question des horaires de travail, qui reste très contraint hein, quand on travaille là. Ce jeune podologue, il devait bien quand même travailler au moment où le cabinet était ouvert, donc il reste très contraint, mais le fait de ne pas risquer peut-être un licenciement parce qu'on est en retard, ou de ne pas perdre sa prime parce qu'on est en retard, ou d'avoir l'impression que si on voulait prendre des vacances en décalé, on pourrait, même si on ne le fait pas, il y a quelque chose c'est tellement associé sans doute à de l'ascension sociale ou à quelque chose qui pourrait rendre le travail heureux, de pouvoir l'organiser comme on veut, que même si ce n'est pas très vrai, il y a une tentative de s'accrocher au fait que peut-être ça allait un peu plus quand même, comme ça, en travaillant comme ça. Bon.
Est-ce que du coup, le critère de subordination est peut-être un peu flou et un peu dur pour décider de si une activité relève du salariat ou de l'auto-entrepreneuriat? Est-ce que la dépendance économique, ça ne pourrait pas être un critère plus évident? On parle de celui qui peut officiellement prendre des vacances quand il veut, mais dans les faits, il ne le peut pas, puisqu'il a besoin de faire à peu près un SMIC pour vivre ou quelque chose comme ça, et il ne peut pas atteindre un revenu décent s'il travaille moins d'un certain seuil d'heure.
Alors ça, c'est un vieux débat plutôt de juriste, hein, comment on définit le travail indépendant par rapport au salariat. La jurisprudence a tranché pour le critère de subordination, plus que pour celui de dépendance économique. Alors que ça a été débattu, hein, il y a eu plusieurs périodes de débat autour de ce critère-là. Pour le moment, c'est vrai que la jurisprudence en France, la doctrine en France, elle est plutôt, enfin elle est même très fortement du côté de la subordination, c'est-à-dire que le salarié, c'est celui à qui on peut donner des ordres, qu'on peut sanctionner, dont on contrôle le processus de travail. Donc, pour le moment, le débat, il est un peu tranché dans ce sens. Ça n'empêche pas franchement de requalifier les travailleurs des plateformes, parce qu'en fait, pour le moment, les magistrats arrivent quand même assez facilement à prouver qu'ils sont contrôlés, qu'ils reçoivent des ordres et qu'ils sont sanctionnés quand ils ne font pas le travail tel que la plateforme le souhaite. Donc, pour le moment, cette définition juridique-là, elle n'empêche pas vraiment la requalification pour les travailleurs de plateforme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un espace qui peut aussi s'ouvrir pour rediscuter des critères des critères juridiques de définition du salariat. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on a peut-être moins dans une discipline de sciences sociales, c'est un débat qui anime peut-être plus les juristes, mais c'est vrai que il semble que ça pourrait être quand même aussi une voie à repenser plus largement ce qu'on appelle le salariat, réintégrer peut-être un peu plus de hiérarchie sociale, en fait, de position entre le travailleur et le donneur d'ordre, potentiellement, ou l'employeur, que de penser aussi l'asymétrie de position, l'asymétrie, et puis un critère, effectivement, de dépendance économique. Pour le moment, il a été un peu intégré dans les statistiques. Quand on essaie justement de voir ces auto-entrepreneurs ou ces indépendants qui n'auraient qu'un seul donneur d'ordre, on prend en compte le critère de la dépendance économique. On se dit, voilà, si cet employeur slash donneur d'ordre périclite, qu'est-ce qui va advenir de l'auto-entrepreneur? Donc, pour le moment, ça s'intègre plutôt par les statistiques, mais c'est vrai qu'il y a un espace aussi de juristes qui aimeraient bien qu'on réouvre un peu le débat sur la subordination.
Il y a un critère qui vraiment différencie les gens qui vont travailler normalement et les auto-entrepreneurs, c'est la protection. C'est quelque chose qui a fait polémique. Et la question, c'est de savoir quelle est vraiment la grosse différence entre les deux au final.
Alors, c'est marrant que vous opposiez ceux qui travaillent normalement des auto-entrepreneurs. Non, ça montre que peut-être que pour le moment, la norme est quand même encore du côté du salariat, mais c'est peut-être un peu moins une évidence qu'avant. C'est vrai que c'est le gros enjeu, sans doute, c'est effectivement celui de la protection sociale. Le travail indépendant est moins protégé que ne l'est l'espace du salariat. C'est un peu toute l'histoire du salariat, toute l'histoire qu'a adressé Robert Castel, notamment du salariat, c'est ce qu'il appelle cette extraordinaire aventure du salariat qui est passée de la condition de prolétaire, c'est-à-dire des travailleurs au jour le jour, sans sécurité, qui sont payés plus ou moins à la tâche ou à l'heure, en fait, selon un peu ce qui a arrangé l'entreprise, en fait, souvent un mélange des deux, pour qu'à la fois le travailleur soit obligé de venir toute la journée, parce que si on le paye qu'à la pièce, potentiellement, il peut venir 2 heures et dire « moi, j'ai assez pour aujourd'hui ». Donc, à la fois à la journée pour le stabiliser et en même temps à la pièce pour le forcer à augmenter les cadences, quoi. Donc, ça, le salariat, c'était ça. C'est ce que décrit Marx, c'est ce que décrivent les hygiénistes, les moralistes du 19e, comme quand même une condition extrêmement dure, si ce n'est indigne, pénible, dangereuse, etc. Et le salariat, petit à petit, en France, mais c'est une histoire qui est quand même plus large qu'en France, sur une temporalité qui est assez similaire, en gros, de la fin du 19e jusqu'aux années 70, on a un salariat qui devient autre chose, qui devient aussi un modèle social, qui devient le point d'ancrage de la protection sociale, d'une forme de socialisation des ressources. Alors ça, c'est plus l'histoire aussi telle que l'adresse Bernard Friot, c'est-à-dire ça devient un moment où on socialise les ressources, c'est-à-dire qu'en fait finalement on n'est pas payé pour ce qu'on produit, on a une contrepartie un peu du travail, mais on a aussi une énorme part de ce qu'on reçoit qui vient un peu du pot commun qui est alimenté par les cotisations sociales et qui va être reversé en complément de rémunération, en retraite, en chômage, etc. Donc le salariat, c'est devenu le socle de la protection sociale. Et c'est vrai qu'on a instauré petit à petit une protection sociale pour les indépendants, mais les indépendants ne voulaient pas forcément se mettre dans ce système-là. Donc ils ont aussi beaucoup résisté au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour avoir un système plus allégé, avec moins de cotisations, moins de protection. Donc les indépendants, quand même, progressivement, la protection s'est un peu alignée quand même sur celle du salarié pour la protection maladie ou maternité. Sur le papier, ils ont un peu les mêmes protections, mais déjà sur la maladie, en fait, ils prennent beaucoup moins de congés maladie parce qu'ils ont toujours peur de perdre des clients, de perdre trop de chiffre d'affaires. Les indemnités journalières ne compensent pas la perte de chiffre d'affaires, donc du coup, ils les prennent moins. Donc, ils en ont sur le papier, mais ils les prennent moins. Ils n'ont pas de chômage. Ça, c'est quand même la grande différence aussi. Les indépendants et donc les micro-entrepreneurs n'ont pas d'allocation de chômage. Et puis les retraites, là aussi, c'est plus ou moins aligné, mais la difficulté, c'est que ça dépend. En gros, la pension, elle dépendra du, de ce qui a été prélevé pour les auto-entrepreneurs, du coup, vu que leurs chiffres d'affaires sont très faibles, du coup, leurs cotisations sont faibles et donc leurs droits à retraite seront très faibles. Donc, en gros, voilà, ils ont moins de protection vraiment au niveau de la protection sociale. En plus, on les a privés de certains droits. Par exemple, les auto-entrepreneurs, la première année, ils n'ont pas d'indemnité journalière s'ils ont une maladie ou un accident du travail. Donc voilà, un livreur qui se casse la jambe pendant la première année, il n'a même pas d'indemnité journalière, il ne touche plus rien du jour au lendemain. Et puis en dehors de la protection sociale, il y a toute l'architecture un peu du droit du travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus de salaire minimum, ils n'ont pas de congés payés, ils n'ont pas de temps de travail limité. Enfin, il y a la protection sociale et il y a plus largement le droit du travail, puisque les indépendants en fait ne sont pas dans le droit du travail, ils sont dans le droit commercial, ils ne sont pas protégés du tout par le droit du travail. Donc, bon, là, maintenant, les travailleurs des plateformes, on les a intégrés depuis la loi El Khomri. Ils sont un peu intégrés dans le droit du travail. Et c'est une intégration hyper paradoxale parce qu'on les a intégrés tout en disant qu'ils ne sont pas salariés. Donc, ça crée une situation un peu inédite. Vous êtes dans le droit du travail, mais vous ne bénéficiez pas de tout ce que recouvre et offre un peu le statut de salarié.
D'une certaine manière, avec ce... cet idéal d'autonomie et de liberté, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'individualisme qui pousse à vouloir se séparer un peu du modèle commun, ne pas cotiser avec tout le monde, mettre soi-même pour sa propre retraite? Est-ce que voilà, c'est pas quelque chose d'un peu plus profond que juste une envie de travailler quand on a envie et d'être un peu libéré d'une contrainte hiérarchique?
En tout cas, ça, c'est ce que ça produit. Je ne sais pas s'il y a vraiment cette envie, parce que moi, je vous dis, en rencontrant les auto-entrepreneurs... Moi, je les ai rencontrés en passant par le fichier des entreprises de l'INSEE, donc c'est-à-dire que j'avais pas trop de biais, à part ceux qui ont bien voulu me parler et ceux qui n'ont pas voulu jouer le jeu, ce qui joue déjà pas mal. Hein. Mais donc moi, la plupart de ceux que j'ai rencontrés, ils n'avaient pas spécialement ce type de motivation. Ils cherchaient surtout du travail. Alors, franchement, c'est quand même assez simple, hein, c'est assez basique. La plupart cherchaient du travail et ils se sont rendus compte que en proposant leur service en auto-entrepreneur, bah, ils arrivaient un peu plus facilement à trouver du travail, ou bien même pour certains, on leur a plus clairement forcé la main. C'est-à-dire eux, ils ont postulé à une offre d'emploi et on leur a dit ok, mais par contre, on vous paiera en auto-entrepreneur. Y compris les employeurs publics, hein, que j'ai rencontrés aussi assez largement dans l'enquête, hein, des gens qui donnent des cours de français ou des cours de théâtre pour des mairies. Et puis j'ai enquêté aussi sur tout un petit service d'une administration publique qui fait travailler tous ses chargés de mission en auto-entrepreneur, parce que révision générale des politiques publiques, on n'a plus le droit d'embaucher dans la fonction publique, donc si on veut embaucher, il faut faire des factures, et donc on embauche les auto-entrepreneurs. Donc voilà, ça c'est un peu le... Donc voilà, pour dire que la motivation de monter son truc, d'être seul, de... ça en fait, c'est pas forcément ce qui précédait l'inscription, et je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas quand on fait une enquête sans entrer par un secteur ou une population particulière, on voit pas spécialement ça, on voit plutôt des gens qui cherchent du travail et qui se retrouvent à bosser comme ça. Et quelques personnes qui ont un peu une idée quand même d'une activité à monter indépendante et puis ils ont utilisé ce statut, mais finalement c'est beaucoup plus marginal. J'en ai que 3 dans les 40 personnes que j'ai rencontrées. Par contre, ce que ça produit potentiellement, c'est ça. Ça produit une forme d'individualisation des relations au travail, parce qu'une fois qu'on est auto-entrepreneur, même si c'est pas vraiment ce qu'on voulait, moi j'ai rencontré une jeune architecte, elle voulait un CDI dans une agence d'archi, puis elle s'est retrouvée auto-entrepreneur, bah, qu'est-ce que ça produit? Ça a quand même tout plein de réalités et de conséquences. C'est-à-dire que, de fait, on devient, aux yeux de l'administration, un travailleur indépendant. Donc, on paye ses cotisations d'une certaine manière. On déclare ses revenus. On est assailli un peu de pub pour des espaces de coworking, pour du matériel de bureau. Enfin, il se passe quand même tout un ensemble de choses. Et notamment le fait qu'effectivement, ils vont... se projeter un peu comme le font les travailleurs indépendants. C'est-à-dire, on sait, les travailleurs indépendants, la plupart du temps, ils sont dans un rapport effectivement plus individuel au travail et au pouvoir public, en gros aux politiques d'une certaine manière. 90% des indépendants votent à droite. On a une réalité sociale qui est assez homogène, hein, les travaux de Nona Meyer là-dessus qui décrivent bien cet écart, hein, quand même. Voilà, ce sont deux statuts de travail. On ne voit pas forcément un impact aussi fort sur le rapport à la chose politique, mais en fait, c'est extrêmement fort. Et les auto-entrepreneurs, bien qu'ils viennent de milieux hyper différents, ils ont pu avoir des expériences de sensibilités politiques assez différentes en fonction de voilà, où ils ont grandi, leurs parents, leurs expériences scolaires, leurs rencontres. Ben, pour autant, une fois qu'ils deviennent auto-entrepreneurs, il se passe quelque chose, quoi. Ils commencent à déclarer leur chiffre d'affaires. Ils ont des paperasses, donc ils se sentent déjà assez assaillis de démarches administratives. Et puis, ils commencent à déclarer, ils commencent à faire ces calculs un peu plus de « j'ai travaillé tant, j'ai gagné tant, et l'État vient me retirer des choses ». Parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand on est salarié, on reçoit son salaire. Alors, si on regarde sa fiche de salaire, on voit bien qu'il y avait un brut et puis qu'il en reste un net qui est plus faible. Mais c'est quand même plus invisible. Les indépendants, ils encaissent une somme, ils la déclarent et de là, on vient leur prélever. Et ça, voilà, ça crée des petits déplacements. Je ne dis pas que du jour au lendemain, quelqu'un qui était militant d'extrême gauche va devenir petit patron de droite, mais ça crée quand même plein de petits déplacements. Et moi, j'ai vu des enquêtés être très énervés, par exemple, que soit réinstituée la contribution en gros des entreprises dont ils étaient dispensés au début et qu'on leur a remise un peu comme cotisation qu'ils ne pouvaient plus esquiver. Et par exemple, ça, c'est le fait de rajouter un prélèvement, c'était vécu vraiment de manière hyper douloureuse, quoi. Ils avaient déjà l'impression d'un peu effectivement galérer, de s'en sortir seuls. Parce que quand même, il y a un peu cette idée qu'eux, ils s'en sont sortis seuls. Ils sont un peu débrouillés face au chômage ou face à la difficulté. Et de fait, quand on est micro-entrepreneur, ça éloigne des structures collectives. On n'est plus salarié, donc de toute façon, on ne peut plus se mettre en grève, on ne peut plus être syndiqué. Ça éloigne de facto quoi, des structures collectives. Et ça fait effectivement qu'ils ont aussi tendance à avoir un rapport plus coupable et plus individuel au travail. C'est-à-dire, par exemple, le podologue dont je parlais tout à l'heure, qui fabrique les semelles pour son patron, qu'il appelle d'ailleurs dans l'entretien « mon employeur et mon patron », ça dépend des phrases. Lui, par exemple, il dit « je gagne pas beaucoup d'argent, je bosse beaucoup et je gagne pas beaucoup d'argent, mais c'est ma faute, je vais pas assez vite ». Et donc, il peut y avoir aussi ce rapport extrêmement coupable à la rémunération, de prendre que sur soi le rythme de travail, la cadence de travail, et d'avoir plutôt un rapport coupable d'autodiscipline dans le travail. Hein, l'autodiscipline, pour le coup, c'est aussi un des enquêtés que j'ai rencontré quand il me ressortait cette fameuse phrase un peu magique et pas hyper réelle qui est « je m'organise comme je veux », je lui dis « ah, ok, donc du coup, parfois, il y a des semaines ou des jours où tu te dis « je vais pas bosser », et il me dit « ah là là, non, je peux pas commencer à faire ça, si on s'autodiscipline pas, on va dans le mur ». Donc, il y a un rapport qui est très intériorisé au travail, très qui peut aller jusqu'à des formes de culpabilité et puis très individualisé.
Alors, ça nous renvoie pas mal au premier mème que vous a montré avec l'auto-fabiang qui a ses propres contraintes et qui s'aliène tout seul, on pourrait dire, d'une certaine manière. Comment ont pu évoluer les liens hiérarchiques avec le développement des plateformes? On sait que ces travailleurs peuvent dire qu'ils sont leurs propres patrons, mais ils ont à la fois des algorithmes omniprésents qui leur imposent une certaine cadence et une performance très soutenue, et à la fois des évaluations de clients très exigeants qui vont punir le moindre faux pas et vraiment très fidèlement ou très avec beaucoup d'attention les noter sur toutes leurs prestations.
C'est vrai que les travailleurs des plateformes, hein, donc que ce soit celles qui sont plus présentes aussi dans l'espace visible, celles qui sont le plus présentes dans l'espace public, à savoir les transports VTC et les livraisons de repas, qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, mais ça mérite sans doute plus qu'une parenthèse, qui sont aussi les espaces les plus masculins de travail sur les plateformes. C'est-à-dire qu'on a des espaces qui sont plus féminisés de travail sur les plateformes numériques, mais où ça rejoue encore une division où l'espace public est plus masculin et l'espace privé est plus féminin. C'est-à-dire que ce sont des plateformes sur lesquelles le travail se réalise plus souvent à la maison, que ce soit du micro-travail en ligne à la maison ou bien de l'activité, par exemple, artisanale qui va être ensuite vendue via des plateformes. Mais donc ça, en gros, les formes de travail sur plateformes plus féminines sont moins visibles et ont moins donné du coup de lieu à du débat public et politique. Donc bon, ça, c'est un souci. Mais si on reprend les plateformes qui ont été le plus débattus et qu'on voit le plus dans l'espace public, donc livreurs et chauffeurs, c'est vrai qu'eux, en gros, ils cumulent vraiment les inconvénients en gros, du salariat et de l'indépendance, c'est-à-dire qu'ils sont aussi subordonnés que des salariés, que ce soit effectivement sur les manières de servir qui sont largement dictées et par la plateforme, hein. D'ailleurs c'est ce qui a permis dans certains procès à requalifier en salariat, c'est parce qu'il y avait bien des preuves qu'on leur demandait de s'habiller d'une certaine manière, de parler d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière, de suivre les itinéraires. Donc il y a bien un contrôle du travail qui est vraiment effectué par la plateforme. Et la plateforme délègue aussi une partie du contrôle du travail. C'est magique, elle n'a même plus à payer de contremaître. C'est les clients qui deviennent les contremaîtres des travailleurs, puisque voilà, les clients vont effectivement noter l'ensemble des prestations de travail de ces travailleurs, sans, la plupart du temps d'ailleurs, sans savoir que ça a un impact sur le fait qu'ils pourront ensuite être déconnectés ou sanctionnés, et sans forcément d'ailleurs savoir qu'eux-mêmes sont notés en tant que clients. Mais bon, de fait, le rapport de force peut-être idéalement, ça aurait pu créer un rapport de force un peu plus symétrique où les chauffeurs peuvent refuser les clients, mais c'est pas du tout le cas, vu que ça coûte rien aux plateformes de faire circuler des tonnes de voitures en permanence. En fait, le coût n'est assuré que par les chauffeurs. Les plateformes ont intérêt à inonder en fait les rues de chauffeurs, puisque le coût d'attente, l'essence, la voiture est payé par les chauffeurs. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit le temps d'attente pour les clients. Donc la plateforme, elle a intérêt à faire travailler le plus de gens possible, puisqu'en fait, elle n'en paye pas le coût. Elle ne paye pas le coût d'un sous-travail, en fait. Or, en fait, les chauffeurs se retrouvent la plupart du temps à courir un peu après les courses, parce qu'il y a eu une explosion du nombre de micro-entrepreneurs dans ce secteur, et que ça fait plein de chauffeurs qui attendent en fait du travail, donc ils se retrouvent en position de faiblesse dans le rapport et aux plateformes et aux clients, en fait. Donc voilà, on se retrouve avec ces relations hiérarchiques qui sont celles du salariat et du contrôle de l'évaluation de la sanction, mais sans les protections du salariat. Donc là, on est vraiment dans une situation de double peine, quoi, en termes de statut. Donc ce qui fait que même quand ils sont pas forcément quand le salariat est pas forcément le Graal pour eux, ça vient au moins clarifier la situation. Quitte à être à ce point subordonné, autant être salarié, comme ça on aura des congés, de la protection. Et puis s'ils ont vraiment un idéal d'entreprise indépendante, ce qui peut tout à fait être le cas, et ce qu'il l'est, au moins en partie, et ben voilà, on ferait un autre boulot. Parce qu'en fait, les plateformes ont siphonné ce secteur d'activité. Une partie des chauffeurs, ceux qui étaient là le plus précocement sur le marché, ils avaient leur clientèle. Ils avaient pu passer des partenariats avec des entreprises, avec des hôtels, avec des familles assez fortunées qui venaient régulièrement, ils venaient les chercher à l'aéroport, ils passaient la journée avec eux, etc. Les plateformes ont complètement siphonné ce marché, ont cassé les prix. Et donc, pour un chauffeur aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir sa clientèle privée. Donc, elles ont complètement aspiré le marché. Donc, par ailleurs, les chauffeurs sont aussi dans une situation de marché qui leur est hyper défavorable.
Mais je rebondis sur le fait, justement, pour une plateforme type Uber, de multiplier les chauffeurs. Est-ce qu'il y a pas, à un moment donné, aussi la possibilité pour ces chauffeurs-là, parce que s'il y a multiplication, il y a perte du chiffre d'affaires quelque part, d'aller manifester? Est-ce qu'on a des exemples, justement, de manifestations pour un peu contrecarrer ça? Parce qu'à partir d'un moment donné, ce serait même plus intéressant pour eux.
Oui, en fait, assez peu de temps après l'implantation des plateformes, et notamment des plateformes VTC, il y a eu des mobilisations qui sont assez rapidement apparues. En France, c'est à l'automne 2015, au moment où Uber décide de baisser le tarif de la course minimum et d'augmenter sa commission, qu'en fait, le jour même, il y a des chauffeurs qui se réunissent sous les locaux d'Uber, et puis ensuite, voilà, le jour même, et puis dans les jours qui vont venir, qui vont bloquer la Porte Maillot ou d'autres axes importants de Paris pour manifester. Et en fait, ça apparaît un peu spontané, au sens où c'est vraiment été une réaction un peu du tac au tac, quoi, par rapport à l'annonce de la plateforme. Mais ça ne sort pas complètement de nulle part, parce que depuis l'été, il y avait déjà deux associations professionnelles, en fait, de chauffeurs qui s'étaient créées et qui étaient déjà... étaient un peu de type un peu parasyndical. D'ailleurs, l'une d'entre elles était rattachée à l'UNSA, donc les syndicats autonomes. Ils préféraient quand même cette image d'un syndicalisme peut-être plus autonome, un peu moins politique peut-être, même si in fine, certains vont devenir assez politisés dans le mouvement. Et puis une deuxième organisation qui était indépendante et qui s'est rattachée à Force Ouvrière 2 ans plus tard. Donc le métier s'est quand même assez vite structuré, organisé, et de fait ça a donné lieu à des mobilisations assez régulières, qui sont quand même difficiles à organiser parce qu'on est sur un secteur assez atomisé. Les chauffeurs, ils se connaissent pas du tout tous. Il y a quelques points de rencontre physiques, il y a des espaces de conversation en ligne sur les réseaux sociaux, etc. Mais souvent, il faut avoir déjà rencontré des gens dans la rue ou dans des cafés pour ensuite se brancher un peu sur une des boucles d'échange, etc. Et il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas dans ces espaces de discussion. Donc, on a quand même des travailleurs où il y a un fort turnover, qui ne se connaissent pas forcément, qui sont dans des situations assez compliquées. Il y en a, après, voilà, c'est des choses qui sont apparues petit à petit, qui sous-louent des comptes, qui partagent des voitures, etc. Donc, ils ne sont pas du tout toujours en situation aussi de pouvoir contester un petit peu, parce qu'on le sait, les mobilisations de travailleurs, c'est souvent quand même les moins dominés des dominés qu'il faut avoir un minimum de ressources quand même pour pouvoir contester, avoir un minimum de temps, avoir un minimum d'interconnaissance, un petit peu de disponibilité, un ensemble de choses qu'on ne possède pas tous les chauffeurs. Donc, il y a plein d'obstacles. Et puis, c'est hyper rare, les manifestations d'indépendants. On ne peut pas faire grève. C'est compliqué, c'est atypique. Et ils ne se percevaient pas. Et la plupart n'étaient pas forcément politisés avant. Nous, quand on discute avec eux, donc ça, c'est l'enquête que j'ai menée avec Sophie Bernard, plus précisément, là, sur les mobilisations, la plupart d'entre eux, ils nous disaient « Non, mais avant, moi, les gens qui faisaient grève ou qui faisaient des manifs, mais c'était pas pour moi. Enfin, je comprenais pas du tout, je trouvais ça naze. Enfin, ça me parlait pas du tout. » Et puis, ils se rendent compte, voilà, en rentrant dans ce secteur d'activité, ils y rentraient parfois avec quand même un ensemble d'espoir, un peu d'ascension sociale, un peu d'indépendance quand même, avoir sa voiture, choisir un peu ses horaires, gagner plus d'argent. Et puis quand ils se rendent compte qu'en fait ils sont surtout endettés, que Uber fixe absolument tous les termes de la relation commerciale, qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'ils n'arrivent plus à avoir de bonnes courses, qu'il n'y a plus de primes, qu'il n'y a plus de bonus, tout ce que les plateformes distribuent assez généreusement quand ils s'implantent quelque part pour capter des chauffeurs, la situation se retourne et c'est vrai qu'il y a eu une forme de colère qui a ensuite pu être un peu construite collectivement avec un discours qui s'est de plus en plus politisé. En plus, après, assez rapidement, après les premières manifestations, on est rentré un peu dans la cycle de la campagne présidentielle, avec Macron, un peu le président des plateformes, qui a vanté les mérites d'Uber pendant la campagne présidentielle, en disant que ça sortait les jeunes de la cité, ça faisait que voilà, ils ne tiendraient plus les murs de la cité et qu'ils arrêteraient de dealer et qu'ils feraient quelque chose de digne. Voilà, tout un vocabulaire quand même hyper moral aussi sur le travail. Et donc voilà, la mobilisation, elle a aussi pris des atours plus politiques à ce moment-là, avec beaucoup de discussions sur qu'est-ce que doit faire l'État par rapport au pouvoir des entreprises, sur une dénonciation aussi du fait que les plateformes ne payent pas leurs impôts. Donc après, bon, y a des plateformes qui ont essayé de tirer leur épingle du jeu dans leur com publicitaire pour dire « nous, on paye nos impôts enfin », mais ça a instauré quand même un débat autour de ça. Et puis des conditions de travail et de la protection sociale qui reste quand même un peu la pierre angulaire de ces mobilisations. Les chauffeurs, ils veulent plus de protection, ils veulent un revenu minimum, ils veulent que l'État leur garantisse que leur travail leur permette de vivre quoi, et d'être un minimum protégé.
Vous avez mentionné des petits gestes de la part de ces plateformes pour mieux payer leurs impôts en France. On a aussi d'autres initiatives à propos des contrats et des conditions. Il y a des plateformes qui se revendiquent de faire des efforts pour avoir des bonnes conditions d'emploi de leurs chauffeurs, donc notamment le VTC chinois Caotao qui essaye d'employer des CDI. Il y a aussi les plateformes de livraison Just Eat et Stuart qui font énormément de communication là-dessus. Est-ce que ça peut amener une solution et un changement concret, ou est-ce que c'est juste du social washing, de la communication de façade sans vrais effets?
C'est vrai que c'est un peu la même chose pour les impôts. Moi, j'avais plutôt mentionné une campagne de com qui mettait en avant. Je ne suis pas allée regarder exactement leur déclaration fiscale. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut regarder un petit peu dans quelle mesure c'est juste une sorte de positionnement stratégique de communication de la part des plateformes. Là, c'est vrai que certaines, suite aux décisions de justice de requalification, ont mis en avant le fait qu'elles allaient passer un peu d'elles-mêmes, en gros, ne pas attendre d'aller au contentieux juridique et anticiper les choses en faisant signer des contrats de salariés. Donc, je sais que les responsables, un peu les meneurs des mobilisations, sont un peu sceptiques sur quel type de contrat ça va amener, parce qu'on est sur des activités dont les horaires sont quand même assez segmentés, quoi. Il y a vraiment des heures de pointe fortes, donc est-ce qu'ils vont être capables de proposer des emplois à temps plein sur une activité qui est aussi fragmentée quoi, dans le temps. C'est une de leurs vraies préoccupations. Donc, à voir. Faudra aller regarder un petit peu l'évolution du marché, voir si effectivement les pratiques changent en termes de droit du travail. Après, le salariat, c'est pas forcément une panacée. C'est vrai que c'est plutôt ce que j'ai présenté comme plus protecteur que le statut de micro-entrepreneur. C'est bien ce que les plateformes cherchent à contourner, c'est bien le salariat. Après, c'est vrai que c'est pas, si on veut réfléchir plus largement à un avenir du travail, le salariat, c'est pas forcément la panacée. Hein. Ça reste pour le moment un mode de travail qui est subordonné, et tant que ça se passe en gros en régime capitaliste, on est quand même sur un salariat où les profits sont pas partagés, les décisions sont pas démocratiques. Donc par ailleurs, on peut se dire que l'avenir et la panacée ne se retrouvent pas forcément dans le salariat, hein. Là c'était vraiment juste pour comparer deux états actuels des modes de travail, c'est salarié et travail indépendant, mais on peut, et une partie des travailleurs qui se mettent aussi à rêver de mieux, de coopératives, d'espaces plus démocratiques, de partage des profits, d'espaces qui vont être vraiment plus des alternatives, non pas seulement à la micro-entreprise, mais aussi à un salariat subordonné avec un employeur et une répartition inégalitaire des profits et de la richesse. Donc voilà. Malgré tout, l'ennemi des plateformes, pour le moment, c'est quand même le salariat, quoi. Donc, c'est vrai que s'il y a une ou deux plateformes qui essayent un peu de tirer leur épingle du jeu en disant « nous, on va jouer le jeu, faire des CDD ou des CDI », pour autant, les principales plateformes, elles sont en train de mener un lobbying intense, hein, auprès de la Commission européenne pour créer un tiers statut, donc qui serait une sorte d'intermédiaire entre salariat et indépendance, qui sera en gros une sorte d'indépendance avec quelques petites protections, qui là, pour le coup, serait ça va être un enjeu vraiment hyper important, parce que c'est absolument pas ce que souhaitent les travailleurs. Et pour le moment, ce qui n'est pas la solution qui avait été favorisée en France, hein, dans plusieurs rapports, c'est pas la solution qui avait été privilégiée. Et là, ce serait vraiment un énorme coup dur pour les travailleurs. Donc ça va être un objet de lutte assez intense, parce que là, les plateformes, comme elles le disent déjà depuis des années, elles veulent se protéger contre le risque de requalification. C'est-à-dire, on a quand même des entreprises qui disent qu'elles veulent se protéger de la loi, en fait. Elles veulent qu'on les autorise à ne pas appliquer la loi, donc à ne pas reconnaître leurs travailleurs comme salariés. Ça va être vraiment un dossier à suivre avec ces plateformes qui veulent instaurer un tiers statut. C'est un peu déjà ce qui avait été fait quand même dans la loi d'orientation des mobilités. Vous avez proposé en France là, des chartes sociales, qui étaient en gros, voilà, vous restez indépendant, ça... On le grave dans le marbre. En échange, on vous donne éventuellement quelques petites protections en plus, un petit peu d'assurance maladie en plus, des chartes qui restent complètement facultatives, complètement unilatérales. C'est la plateforme qui décide ce qu'elle veut bien offrir éventuellement en plus à ses travailleurs. Donc ça peut être leur faciliter l'accès à des mutuelles privées. Hein. Il ne s'agit pas forcément d'aller vers de la protection sociale publique. Et on pourrait avoir quelque chose d'un peu similaire au niveau européen. Ça va être un enjeu de lutte important, parce que ça va vraiment venir définir la ligne et la norme pour tout le secteur des plateformes.
La Cour de cassation a requalifié en CDI plusieurs justement personnes qui avaient prouvé justement qu'ils faisaient du salariat déguisé. Mais quelque part, ces décisions, elles ne s'appliquent pas à tous. Donc moi, la question que j'ai, c'est que fait l'État, quelque part, justement, pour empêcher ça?
Alors, c'est vrai, les décisions de justice, elles sont clairement importantes. Hein. Ça vient quand même sanctionner un moment un état des relations, enfin un état du débat quand même, un état de la doctrine juridique, un état des, sans doute un peu des relations de force, hein, entre les travailleurs et les entreprises. Et c'est vrai que les décisions, elles ont beaucoup bougé ces dernières années. Assez étonnamment, peut-être, les juges anglo-saxons ont été un peu plus promptes à requalifier des situations de travailleurs des plateformes en salariés, pendant que, en gros, les juges français continuaient à dire que tant que les travailleurs choisissaient quand ils travaillaient, on pouvait peut-être laisser l'idée que c'était du travail indépendant. Donc, alors que les juges anglo-saxons, un peu plus vite, c'est ce que Hélène Nazom-Tissandier, Morgan Sweeney, qui ont travaillé avec, dans notre équipe de recherche, ont vu assez vite, c'est que les juges anglo-saxons, ils disaient, nous, ce qui nous importe, c'est à partir du moment où vous êtes connectés, comment ça se passe. Et si ça ressemble à du salariat, c'est du salariat. Et donc, pendant un moment, voilà, les juges français disaient, non, parce que si on choisit quand on se connecte, Il n'y a pas de contrôle sur le temps de travail, donc on peut peut-être dire que c'est de l'indépendance. Et puis petit à petit, les juges français ont eu de plus en plus d'arguments, des dossiers de plus en plus solides aussi pour montrer à quel point les plateformes étaient intrusives en termes de contrôle, de directives, de sanctions. Donc ça rentrait tellement dans les cases du salariat que de fait, les décisions ont commencé à être de plus en plus favorables au salariat. Ça a amené aux décisions historiques quand même importantes de la Cour de cassation, d'abord sur un livreur, puis sur un chauffeur. Voilà, ce sont des décisions importantes parce que ça donne des précédents, donc qui sont importants, c'est-à-dire que ça autorise quand même à penser que des travailleurs peuvent maintenant déposer un dossier, donc c'est au prud'homme, hein, pour demander à être qualifiés. En gros, ce que ça va leur donner, en général, ça va être des sortes de dommages après coup, c'est-à-dire qu'ils vont être compensés des salaires qu'ils auraient dû recevoir et des cotisations qu'ils auraient dû recevoir s'ils avaient été salariés, puisque le juge considère qu'en fait, ils étaient dans une situation de salarié. Mais en fait, on ne porte plainte au prud'homme que quand la relation d'emploi elle est terminée, donc même les travailleurs qui portent plainte, eux-mêmes ne seront pas CDIsés. C'est juste qu'on reconnaît qu'en fait, ils étaient dans une situation de salarié. Donc voilà, ça autorise à penser quand même que d'autres travailleurs pourraient un peu plus massivement déposer des dossiers. Il y a un débat aujourd'hui en France aussi sur le dépôt de dossiers collectifs, hein, les class actions à l'américaine. Donc ça, si ça aussi, ça passait, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour le moment, mais il pourrait y avoir des changements bientôt en termes politiques. Mais pour le moment, ça passe pas. Mais disons que ces décisions de justice, et puis si on autorisait les class actions, ça pourrait donner quand même un recours un peu massif, une demande un peu massive de requalification. Maintenant, les autres instruments aussi, qui sont moins visibles, c'est toute l'action des administrations en France, hein. L'inspection du travail, tous les organismes de recueil des cotisations sociales, donc les URSSAF, la COS, etc. Et ces administrations-là, elles peuvent aussi déposer plainte contre les plateformes. Elles l'ont fait, elles vont continuer à le faire sans doute. Et là, on est sur un impact qui est un peu plus massif parce qu'il s'agit de poursuivre collectivement, en fait. Là, voilà, on est sur l'inspection du travail, ils vont dans les locaux des plateformes, ils saisissent les dossiers et c'est massivement qui peuvent estimer qu'on est dans du travail dissimulé. Donc travail dissimulé, c'est même plus fort que de la requalification, puisqu'on estime que l'employeur, il a volontairement masqué une relation d'emploi en la travestissant, voilà, sous des aspects de travail indépendant, et donc en ne versant aucune cotisation, parce que c'est bien ça ce qui se passe avec les plateformes, hein, ils ne versent aucune cotisation sociale. Et donc voilà, on a un autre pan aussi, donc il y a la justice, il y a aussi tout ce travail administratif. Évidemment, ce qui va se jouer aussi, notamment pour la France, ça va être voilà, ce qui se joue par rapport à l'échelon européen qu'on évoquait tout à l'heure. Selon comment les négociations vont se dérouler auprès de la Commission européenne, est-ce que ça va aller vers ce tiers statut que réclament les plateformes pour éviter encore le salariat? Ou est-ce qu'il y aura une décision contraire de la justice, enfin des pouvoirs politiques en Europe, et ça pourrait se traduire ensuite par des décisions de justice, pour dire qu'en fait, on est bien dans du salariat, et les plateformes ne peuvent plus esquiver ni les cotisations, ni le droit du travail, ni éventuellement la fiscalité, si on repense aussi un peu leur système d'implantation dans des paradis un peu judiciaires aussi, quoi.
Bon, on continuera de voir ça un petit peu pour la suite. L'interview touche à sa fin. Un grand merci, Madame Abdelnour, d'avoir été présent. Et je pense qu'on est bon. Je sais pas comment finir, hein, tu retireras ce truc bizarre à la fin, mais.
C'est comme un petit rituel, on fait semblant que tout ça n'est pas préparé, tu vois, et ça, c'est quand il y a générique.